Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Janine El-Khoubi, agrégée de lettres classiques, auteur de plusieurs ouvrages, dont Chronique biblique au féminin ou Chronique talmudique au féminin, des livres où le regard et la place des femmes dans la littérature juive prend forme et surtout existe. Janine El-Khoubi, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez d'être distinguée du titre Yakira Akerila par le grand rabbin de France, Chaim Korsia, un titre remis pour votre engagement dans la communauté juive et notamment dans l'enseignement en faisant bouger les lignes. Alors, tout d'abord, félicitations. Comment avez-vous accueilli cette distinction ?
D'abord, peut-être, je vais dire un mot du titre lui-même. D'abord, c'est une distinction qui est tout à fait nouvelle. Le grand rabbin de France l'a instituée cette année et il va la pérenniser en nommant deux femmes tous les ans à Hanouka, et deux hommes également, mais les hommes ont le titre de Haver. Haver, c'est-à-dire compagnon, en gros. Et pour les femmes, ça, c'est le titre de Yakirat Akeila. Vous me permettez de dire un mot de
bien
ce
sûr,
titre,
bien
c'est
sûr.
C'est un peu difficile à traduire. Yakir, en hébreu, se trouve dans les prophètes, dans le prophète Jérémie. Yakir, ça signifie qui est aimé, qui est chéri. Et ça se trouve également dans le Talmud, ce terme de Yakir, au sens de gens importants, gens remarquables de la communauté. Donc si je traduis Yakira Krakeila, littéralement, ça donnerait une femme importante de la communauté. Voilà. Je veux pas traduire par notable, parce que vraiment, je me sens pas du tout dans la peau d'une notable, et puis notable a toute une connotation de quelque chose de formel et de suranné aussi, donc voilà.
Comment est-ce que vous avez accueilli cette distinction, justement?
Alors, je l'ai reçue par téléphone du grand rabbin de France, qui m'a appelé. J'étais extrêmement étonnée parce que je ne m'y attendais absolument pas. J'étais pas du tout dans cette logique-là ou dans cette démarche-là. Et il a beaucoup insisté sur ce que vous avez dit, sur le fait que cette distinction m'a été décernée en regard du bénévolat que j'avais accompli dans la communauté de Strasbourg, mais également dans la communauté nationale, en regard de l'enseignement que j'avais dispensé, en regard aussi de la place que j'avais, alors comment on va dire ça, que j'avais revendiqué, la place d'enseignement que j'avais revendiqué et occupée pour les femmes, puisque c'est quelque chose qui n'était pas du tout évident et qui ne l'est peut-être pas encore aujourd'hui non plus. Et également, m'a-t-il dit, pour les luttes que j'ai menées. Voilà.
Les alors, luttes, justement, on va y venir. Les luttes, quelles sont-elles?
Alors, elles sont, vous en avez parlé un tout petit peu à travers les deux livres que vous avez cités.
Oui.
Ce sont des luttes pour rendre visibles les femmes. Dans les chroniques talmudiques, j'ai évoqué une vingtaine de femmes du Talmud. Alors, quand je dis du Talmud, ce sont des femmes qui apparaissent dans le Talmud, mais très souvent, à part quelques-unes, de façon extrêmement rapide, comme étant la femme de tel rabbi, ou comme étant remarquable pour tel ou tel point. Et donc, j'ai voulu les rendre visibles, d'abord en parler, parce qu'on n'en parle jamais, en parler, les rendre visibles à partir des textes dans lesquels elles sont évoquées, et en leur adressant la parole. Ce livre est conçu comme une espèce d'interpellation de ces femmes, dont certaines sont très importantes et connues, comme évidemment Bruria ou Yalta,
oui,
mais dont d'autres sont largement inconnues. Et dans les chroniques bibliques au féminin, c'est un peu différent. J'ai voulu mettre à l'honneur les personnages bibliques, mais là, ce sont elles qui ont la parole, c'est-à-dire que ce sont elles qui racontent les faits relatés dans la Torah ou dans le Tanakh, dans la Bible, en les prenant en charge. Et je me suis appuyée pour le faire, et c'est peut-être là aussi que la légitimité de mon propos est incontestable, je me suis appuyée sur le Midrash, c'est-à-dire sur le commentaire rabbinique. Voilà.
Oui.
Alors ça, si vous voulez, c'est un petit peu ça, c'est au niveau de la littérature. Au niveau des autres combats, je me suis beaucoup impliquée dans la visibilisation, d'une part, et la lutte, d'autre part, pour les femmes qu'on appelle en général agounot, mais qui sont de nos jours beaucoup plus ce qu'on appelle des mesoras avodat. Je m'explique. Agounot, ce sont des femmes ancrées dans un mariage qui n'existe plus. Je ne veux pas m'étendre beaucoup, mais dans la littérature et dans la pensée juive, dans la pratique juive, c'est le mari qui doit donner le document de divorce qu'on appelle le guet. Mmh. Lorsque le mari a disparu dans une guerre, par exemple, ou plus récemment au moment de la Shoah, lorsqu'on ne savait pas s'il était en vie ou non, eh bien les femmes étaient ancrées, attachées, si vous voulez, liées à un mariage qui n'avait plus de réalité. Mais de nos jours, la tragédie fait beaucoup moins les femmes agonautes, parce qu'on a des moyens aujourd'hui de s'assurer de la mort de quelqu'un beaucoup plus que dans les temps passés. Le problème grave aujourd'hui, ce sont les mesaravot guet, c'est-à-dire les femmes qui ne reçoivent pas de guet parce que le mari, pour une raison ou pour une autre, a décidé de ne pas leur donner, de leur refuser le guet. À ce moment-là, elles sont prisonnières de ce mariage, elles ne peuvent pas refaire leur vie. Et c'est un scandale parce que certains de ces maris, de leur côté, refont leur vie. Les conditions pour eux sont moins dramatiques que pour les femmes. Et elles vivent. J'ai eu le cas d'une femme qui est restée 29 ans privée de guet. 29 ans, vous vous rendez compte?
Oui.
Et qui a pu être libérée ensuite. Voilà. Alors, c'était ça, si vous voulez, les points principaux de mes luttes. Donc, le dernier combat que je vais évoquer très, très rapidement, mais qui est dans les mémoires de tout le monde à Strasbourg, c'est celui que j'ai mené en compagnie d'autres femmes, dont Sonia Lipsic, pour obtenir que les femmes puissent être élues, éligibles et élues au consistoire israélite du Bas-Rhin. Et ça a été obtenu. Et donc, maintenant, les femmes sont éligibles, chose qui n'était pas possible avant 2006.
Et pour l'heure, il n'y a pas de femmes élues, pour l'instant.
Non, mais les femmes peuvent se présenter. Il n'y a pas de femmes élues parce que celles qui s'étaient présentées aux dernières élections n'ont pas été élues. Bon, ça, c'est le jeu démocratique.
Oui.
Mais il n'y a plus d'obstacles comme il y en avait un avant.
C'est un combat féministe que vous menez.
On peut l'appeler de cette manière-là, si vous voulez. Moi, je suis féministe dans la mesure où je défends un certain nombre de droits des femmes. Ici en France, le mot, oui, à Strasbourg en particulier, et dans la communauté juive encore plus, le mot féministe est connoté de façon souvent négative. Mais je vais rapporter le mot d'une féministe orthodoxe israélienne qui s'appelle, qui a combattu elle pour que les femmes puissent entrer dans les conseils municipaux en Israël. Elle s'appelle Léa Chagdiel et elle me disait, quand quelqu'un me dit qu'il n'est pas féministe ou qu'elle n'est pas féministe, je lui dis « Vous votez ?» La femme me répond « Oui, alors vous êtes féministe. » Parce que tout simplement, le droit de vote des femmes, et nous le savons à Strasbourg mieux que personne, je viens d'évoquer une bataille pour un droit de vote en 2006, le droit de vote des femmes a été acquis grâce aux luttes des féministes. Point.
Janine Elkoubi, qu'est-ce que vous pensez des rabbins femmes?
Alors,
qu'on retrouve chez les libéraux, hein, pas encore chez les juifs orthodoxes.
Mais en Israël, il faut savoir qu'il y a des femmes orthodoxes qui ont été ordonnées rabbins. Alors, il y a eu toute une bataille autour de la dénomination. Est-ce qu'on va dire rabbinite? En général, rabbinite, c'est le nom que portent les femmes de rabbins. Ou est-ce que certaines s'appellent ma'arat, c'est-à-dire notre maître, la rabbine telle et telle. En Israël, ça commence à devenir un peu banal, si vous voulez. Maintenant, sur le plan, ce que je pense des femmes rabbins. Premièrement, sur le plan de la réalité, certaines sont tout à fait remarquables. Delphine Horviller dit des choses dans ses livres et dans ses cours avec la plupart desquelles, un rabbin ou une personne orthodoxe ne peut qu'être d'accord. J'ai dit la plupart des choses.
Oui.
Il y a des points sur lesquels, bien sûr, il y a des désaccords. Sur la théorie de la chose, qu'est-ce que c'est qu'un rav, littéralement, un rabbin, un rav? Un rav, c'est quelqu'un qui enseigne. Les femmes ont dû se battre aussi pour obtenir le droit à l'éducation, bien que dans la tradition juive, il n'y a nulle part, et j'insiste très fort là-dessus, nulle part, ni dans le Talmud, ni ailleurs, il n'y a d'interdiction pour les femmes d'étudier et d'apprendre. Ça n'existe pas. Elles sont dispensées. Dispensées, c'est pas du tout la même chose que interdites, oui, de quelque chose. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que au 19e siècle, il y a une femme qui est très connue maintenant, qui s'appelle Sarah Schnierer. Sarah Schnierer s'est battue toute sa vie en Allemagne pour instituer, pour créer des écoles pour filles qui n'existaient pas. Elle a dû lutter contre le gros de l'establishment rabbinique de l'époque, pas tous les rabbins. Il y a des rabbins très lucides et très clairvoyants qui lui ont apporté leur soutien. Elle a créé ces écoles qui s'appellent, écoutez bien, Beit Yaakov. Aujourd'hui, le Beit Yaakov, c'est devenu l'emblème de tous les milieux orthodoxes. Je veux simplement dire par là qu'il y a des combats qui méritent d'être menés, même quand on a contre soi tout le monde, et qui, dans la réalité des faits et de l'histoire, deviennent justement des combats, comment dire, absolument évidents, et dans le résultat est absolument évident. Il n'aiderait à l'esprit de personne aujourd'hui de prétendre qu'une fille ne doit pas apprendre. L'identité juive, et d'ailleurs l'identité de n'importe qui, elle est à base de savoir, à base de possibilité de s'identifier à une tradition, à un bagage culturel, historique, religieux. Et si on maintenait les filles et les femmes dans l'ignorance, ce serait une catastrophe pour le judaïsme tout entier. Alors aujourd'hui, le combat, il n'est plus en Israël et aux USA, il ne l'est plus en France un peu encore, autour de ce qu'on appelle la Torah Shebaalpeh, c'est-à-dire la Torah orale, les textes rabbiniques de la Mishnah et de la Gemara. Il y a de plus en plus de femmes, même en France, qui étudient ces textes-là, même si un certain nombre d'autorités rabbiniques, mais pas toutes, de loin pas toutes, persistent à dire que c'est pas le domaine des femmes. Le domaine du savoir, il est absolument fondamental, toujours et partout, et il n'y a de possibilité de continuer à être partie prenante du peuple juif, qu'on soit homme ou femme, que si on s'ancre dans l'étude. Voilà, de cela je suis convaincue.
Et c'est un travail que vous menez, vous avez utilisé plusieurs fois le mot combat, c'est un combat que vous menez et qui aujourd'hui a été reconnu par le grand rabbin de France.
Oui, on peut dire ça comme ça, mais le combat, je ne sais pas si le... Oui, pourquoi pas, je peux dire le combat parce que j'ai enseigné depuis je ne sais pas combien de temps, des dizaines d'années. Je continue à enseigner, je continue à donner des cours. Et je m'aperçois combien c'est gratifiant, et pour moi qui apprends, parce que on n'apprend jamais mieux que quand on doit enseigner, et pour les élèves, parce que, comment vous dire, cet exercice à la fois intellectuel et spirituel, qui consiste à s'accrocher, à s'affronter au texte, à les creuser, à se demander ce que ça veut dire. Au-delà de la petite moralité de tous les jours, si vous voulez, au-delà du bon dieuzardisme de certains, ça, c'est quelque chose vraiment d'enthousiasmant et qui vous donne une place dans la société juive, dans la tradition juive, dans l'histoire juive, et qui vous donne votre identité.
Janine El-Koubi, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle, vous venez d'être distinguée du titre Yakira Akeila, je ne sais pas si je le dis bien, c'est par le grand rabbin de France, Raïm Korsia. On vous félicite, c'était un plaisir de vous entendre, on a appris beaucoup de choses. Merci à vous.
Merci à vous.